Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Ce matin, nous allons poursuivre l'examen des doctrines fondamentales citées dans l'Épître aux Hébreux par l'apôtre Paul. Nous avons examiné les deux premières qui sont les œuvres mortes et la foi en Dieu. La troisième doctrine fondamentale mentionnée par l'apôtre Paul est la doctrine des baptêmes. Le baptême est l'aboutissement d'un changement radical dans la vie de celui qui souhaite devenir disciple du Christ. Il marque l'engagement à pratiquer le mode de vie décrit dans les Écritures et l'engagement à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De nos jours, peu de personnes comprennent le travail de Jean-Baptiste qui baptisa de nombreuses personnes, y compris des pharisiens et des sadducéens. Mais qui a conféré à Jean-Baptiste l'autorité de baptiser? Dieu nous a révélé la raison pour laquelle certains événements se sont déroulés au cours de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul écrit au sujet de l'ancien Israël, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » N'oublions pas que les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, qui représentait une véritable tombe. Pharaon et ses soldats périrent dans cette tombe. L'exemple que constituait le baptême d'Israël n'était en somme qu'une préfiguration symbolique. En ressortant de la mer Rouge, le peuple allait aborder une vie nouvelle dans la terre promise. Jean-Baptiste accomplissait l'œuvre divine. Il appelait les gens à la repentance et il refusait le baptême à ceux qui ne montraient pas le désir de produire du fruit digne de la repentance. Le baptême était pour ceux qui s'éloignaient du péché et qui voulaient bénéficier du sacrifice du Messie annoncé depuis longtemps. En se présentant à Jean pour se faire baptiser, Jésus marqua son approbation envers son travail. Lisons la réaction de Jean lorsque le Christ vint à lui. Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Plus tard, après sa mort et sa résurrection, Jésus ordonna à ses disciples de suivre cette même procédure lorsque quelqu'un accepterait son sacrifice, croirait et pratiquerait son enseignement. Le baptême, mais le vrai baptême par immersion, qui suit la véritable repentance, reste la porte symbolique vers la justice et chaque être humain devra y passer pour recevoir la vie éternelle. L'homme doit apprendre à se soumettre aux lois divines et à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean-Baptiste déclara, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême du Saint-Esprit est le baptême que doit subir toute personne pour être considérée chrétienne. Qu'en est-il du baptême du feu? Pour le comprendre, il faut savoir à qui Jean-Baptiste s'adresse. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Il est certain que tous ces gens n'étaient pas repentants. Ils s'amenaient en grande foule, poussés par la curiosité. Jean les baptisait-il tous? Loin de là. Beaucoup reconnaissaient leurs péchés, d'autres pas. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Jean s'adresse ici à des hypocrites qu'il qualifie de race de vipères. Il refuse de les baptiser. Ces pharisiens et ces sadducéens doivent attendre la colère à venir. Jean-Baptiste s'adresse à deux groupes de personnes. Des hypocrites, à qui il refuse le baptême, et des personnes qui se repentent et qu'il baptise. Les baptisés seront baptisés du Saint-Esprit après la mort du Christ. Et les autres devront attendre la colère à venir qui les consumera définitivement. Ces deux groupes de personnes auront des destinées opposées. Pour les uns, le Saint-Esprit et la vie éternelle, pour les autres, un feu destructeur, une mort éternelle. Jean-Baptiste ajoute « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. » Il est bien question ici des méchants qui refusent de se repentir et qui seront jetés dans l'étang de feu pour une mort définitive. Voilà le baptême du feu mentionné par Jean-Baptiste. Parmi les personnes qui s'approchent de lui, il en est qui auront cette triste destinée. Jean-Baptiste ajoute, il, et il s'agit ici du Christ, a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Remarquez que le Christ amassera son blé dans le grenier, alors que le feu, un feu qui ne s'éteint point et qui ne s'éteindra point aussi longtemps qu'il sera alimenté, est réservé à la paille. La balle est l'enveloppe des graines de céréales que l'on sépare à l'aide du vent qui, lui, est une sorte de large panier à fond plat, muni de deux anses, qui sert à vanner, à séparer la balle des graines. Il y aura donc un tri. Jésus a illustré ce tri en d'autres termes dans la parabole de l'ivraie et du blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, qui symbolise les mauvais, et liez-les en gerbe pour les brûler, mais amassez le blé, qui symbolise les bons, dans mon grenier. Le Christ explique ces symboles en disant « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Nous avons vu que Jean-Baptiste a déclaré « Il nettoiera son air ». De quoi s'agit-il? Ceux qui pensent bien à tort que le chrétien doit rechercher le baptême du feu pensent que l'air se rapporte à chaque individu chrétien. Ils supposent que Jésus-Christ va vanner le vent et les flammes à la main, brûlant ainsi toute la menue paille, toute la balle du grain qu'il découvrira dans les chrétiens, pour ne laisser que la bonne partie dans l'homme, c'est-à-dire le blé. Mais ceci n'est que pure interprétation. En effet, l'Écriture dit « Jésus-Christ a son vent à la main, il nettoiera son air. » Que doit-il ôter de son air? La menue paille, la balle, et ensuite, le blé sera amassé dans le grenier. L'air est le champ que Jésus mentionne dans sa parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, cet ennemi est Satan, le diable, sema de l'ivraie parmi le blé, il s'agit des fils du malin, des pécheurs, et s'en alla. » Jésus poursuit en disant « Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Il laisse donc le blé et l'ivraie. Ceux qui obéissent à Dieu et les méchants vivent ensemble. Et à la fin du monde, Dieu enverra ses anges, qui sont les moissonneurs, pour baptiser de feu l'ivraie et les pécheurs perdus, qui seront jetés dans le feu qui les consumera. Quant au blé, les personnes qui se seront soumises à Dieu, qui auront pratiqué sa volonté, elles seront amassées dans son grenier, c'est-à-dire dans son royaume. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous avons lu que le champ symbolise le monde. Lorsque Jean-Baptiste mentionne le baptême du Saint-Esprit et de feu, il a devant lui des fils du malin, des hypocrites, mais aussi des personnes qui sont sincèrement repenties. Jésus doit nettoyer son air, son champ. Il doit procéder à un triage. Le blé doit être amassé dans le royaume, tandis que la menue paille, la balle du grain et l'ivraie doivent être séparés afin d'être ôtés du monde et être brûlés. Nettoyer l'air, c'est séparer le bon du méchant, c'est séparer le blé de sa balle. Le vent sépare les saints des pécheurs entêtés pour que ce dernier puisse être détruit. Le vent n'est pas destiné à purifier les saints. En parlant des pécheurs, et non pas du péché qui doit être extirpé de chaque chrétien, Dieu dit c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, parce que secouée dans le vent du vaneur, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Ce passage est conforme aux paroles de Jean-Baptiste qui a dit au sujet de Jésus, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Qu'est-ce que le feu qui ne s'éteint point? La Bible nous donne la réponse. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ils ne vivent donc pas éternellement dans le feu. Ils sont détruits, réduits en cendres. C'est ce que la Bible appelle le baptême du feu. Quant au baptême d'eau, il concrétise notre désir de participer à la mort du Christ. L'apôtre Paul a écrit, « C'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Le baptême représente la mise en tombe du pécheur qui en ressort pour vivre une vie nouvelle, une vie conforme à la loi divine évitant le péché. Celui qui est enseveli dans l'eau du baptême est lavé du péché, il est pardonné, il n'est plus sous la mante, sous le salaire du péché, qui est la mort éternelle, mais il doit marcher en nouveauté de vie. Paul a écrit, « Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, et c'est le Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Le Christ est devenu péché, il a porté tous nos péchés pour que nous puissions vivre dans la justice, sans péché, sans transgresser la loi, et devenir ainsi disciples du Christ, des chrétiens proches de Dieu, chassant de notre vie les péchés qui mettent une barrière entre Dieu et les hommes. Le nouveau baptisé, s'il s'est vraiment repenti de ses transgressions passées, a adopté de nouvelles valeurs. Une nouvelle vie commence pour lui. Une vie où les valeurs spirituelles priment. Il recherche désormais la volonté de Dieu. Il prouve toute chose, il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il tend tous ses efforts vers la perfection. Et l'apôtre Paul a écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par sa miséricorde, par son amour, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, à ses coutumes, à ses traditions, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, avec l'aide du Saint-Esprit, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »